Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Christina Silvero au micro. Comment contrer les discours de la haine qui peuvent inciter à la violence et au génocide sans pour autant limiter la liberté d'expression? C'est le thème que nous explorons dans cette édition d'Escale, en compagnie du conseiller spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la prévention du génocide et ancien greffier du tribunal spécial pour le Rwanda, Adama Dieng, et de deux des invités qui ont participé à la table ronde qu'il a organisée sur la question récemment au siège de l'ONU à New York. Bonne écoute.
Le discours de haine, c'est en fait toute forme de communication, que ce soit par l'écrit, par la parole, par l'image ou même le comportement tendant à dénigrer une personne ou un groupe. Le plus souvent, il s'agit d'ailleurs d'un groupe sur la base de l'appartenance à une religion, une race, une ethnie ou tout autre facteur. Le discours de la haine peut suggérer en fait qu'un groupe est inférieur à un autre groupe et peut suggérer que ce groupe soit discriminé, exclu même de l'accès à l'emploi, à la propriété, l'accès à des positions politiques.
Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen. Und ihr dürft ihn euch schon nicht groß werden lassen.
Discours de haine, l'expression évoque les épisodes les plus sombres de l'histoire, les crimes du régime nazi ou le drame du Rwanda. Mais comme le signale le conseiller spécial des Nations Unies pour la prévention des génocides, cette question demeure malheureusement toujours pertinente aujourd'hui.
L'année dernière, précisément au mois de septembre 2012, on se souvient de cette vague de manifestations violentes à travers le monde au lendemain de ce film « entre guillemets » qui a été disséminé et qui portait un discours anti-islamique ainsi que des bandes dessinées. Et vous vous souvenez tous du nombre de victimes tout simplement liées à ce discours de la haine véhiculé par ce film.
Néanmoins, si le bureau du conseiller existe aujourd'hui, c'est que le monde a tiré les leçons du passé et compte les appliquer pour éviter que de telles atrocités ne se reproduisent. Adama Dieng.
Nous ne saurions aujourd'hui tolérer un discours comme celui qui a prévalu avant l'Holocauste, le discours nazi. Et nous ne pouvons accepter aujourd'hui un discours comme celui qui était disséminé à travers la radio des Mille Collines au Rwanda. Nous en connaissons les conséquences. En Europe, nous avons été les témoins de plus de 6 millions de victimes, tout simplement parce que ces hommes, ces femmes et surtout ces enfants étaient des juifs. Et de même, nous avons eu entre 800 000 et 1 million de victimes au Rwanda parce que tout simplement, ces hommes, ces femmes et ces enfants étaient des Tutsis. Et cela, ça a été véhiculé d'abord à travers un discours de haine. Et c'est pourquoi nous devons tout faire pour prévenir le discours de haine. Parce que le discours de haine peut être plus tragique que les balles de fusil. Nous l'avons vu dans le procès des médias au tribunal d'Arusha que les mots peuvent être plus mortels que les balles.
Oui, à tous les individus qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous, les individus, vous n'êtes pas des Rwandais.
Lutter contre les discours de la haine est donc un volet essentiel de la prévention de la violence et de futurs génocides, selon Adama Dieng. Mais comment contrer des propos haineux sans limiter la liberté d'expression? La réponse du conseiller.
Il faut tout faire, mais il ne faut pas réduire la liberté d'expression. Pour moi, la liberté d'expression, ce que les Américains appellent « freedom of speech », est quelque chose de sacré. Parce que même la personne qui a faim devrait pouvoir exprimer justement qu'elle a faim. Mais comment le prévenir sinon par l'éducation? Par l'éducation, mais aussi par la législation. Au Kenya, où nous avons également connu une situation de violence aux élections de 2007, nous nous souvenons tous du discours de haine qui a été véhiculé par certains leaders politiques. Et à l'issue de cette tragédie, une loi a été votée au Kenya pour justement prévenir ce discours de la haine, pour réprimer ce discours de la haine. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs aussi que j'irai moi-même au Kenya, parce que les prochaines élections auront lieu le 4 mars, pour engager les autorités gouvernementales, les responsables politiques, la société civile, les médias, les leaders religieux et traditionnels, pour qu'ensemble ils se mobilisent et évitent justement qu'il y ait un discours de haine qui pourrait se traduire par des tragédies.
En effet, le conseiller détient dans son arsenal la liberté de faire pression politique dans les dossiers d'actualité à risque. Adama Dieng.
On a vu en Syrie récemment un discours qui commence à fleurir, un discours à la fois du côté du pouvoir contre les forces sunnites, mais il y a eu aussi un discours de certains groupes extrémistes religieux contre les Alaouites. Il nous faut faire en sorte que demain, nous puissions prévenir la commission de crimes atroces en Syrie. Et c'est aussi une des préoccupations de mon bureau.
Là, c'est plutôt une question d'apporter une pression internationale.
Absolument. Et c'est la raison pour laquelle, au mois de décembre dernier, j'ai sorti une déclaration pour alerter la communauté internationale sur les dangers qui menacent. J'ai également sorti une déclaration sur le Mali. Parce qu'au Mali, nous nous félicitons de l'intervention militaire qui a permis de repousser les forces islamistes rétrogrades qui ont voulu avancer vers le sud. Mais en même temps, je suis préoccupé par certaines exactions qui sont en train d'être commises au Mali. Comme vous le savez, il y a des Maliens qui ont été blessés, n'est-ce pas, et qui aujourd'hui confondent les Touaregs avec les islamistes, confondent les Maliens d'origine arabe, comme ils les appellent les light skin, les peaux claires. Non, il ne faut pas qu'il y ait justement cet amalgame. Et je suis heureux de constater que les autorités maliennes prennent très au sérieux cette question. Et mon bureau va également apporter son appui aux autorités maliennes pour organiser d'ailleurs une session de formation à la prévention des crimes atroces. Le président malien, dans une déclaration récente, s'est engagé à continuer à mettre cette alerte. Et mon bureau va également l'appuyer dans ce sens pour organiser des sessions de formation. Il faut former les militaires, mais au-delà, il faudra nécessairement que les forces armées qui sont aujourd'hui à Bamako, au Mali, que ce soit les forces maliennes, mais aussi les forces africaines et françaises, qu'elles sachent qu'aucun crime ne saura être toléré et que, quel que soit le crime commis, justice sera faite. Et c'est pourquoi nous insistons pour que les populations maliennes, qu'elles soient Touareg, qu'elles soient arabes, qu'elles soient Sonraï, qu'elles soient Peul, qu'elles soient Bambara, qu'elles se rassemblent, qu'elles se réconcilient, parce que le Mali doit rester un.
Pour mieux débattre et parvenir à un équilibre entre le maintien de la liberté d'expression et la lutte contre les discours de la haine, Adama Dieng a fait appel à plusieurs experts. L'un des moyens d'y parvenir est l'éducation du public. George Weiss, l'un des panélistes, est directeur du réseau de la radio La Benevolencia, fondation d'outils humanitaires. Les programmes de La Benevolencia visent justement à faire de la sensibilisation grâce à des programmes radio. George Weiss revient sur les méthodes des messages.
C'est un programme qui dispose de trois axes principaux, donc un feuilleton radiophonique, une série de débats radiophoniques et des activités de base qui se lient à ces programmes radio. Et donc, ce sont des programmes radio qui sont faits par une technique qui s'appelle Education and Entertainment Techniques. Nous employons ces techniques justement pour donner une sorte de vocabulaire psychologique aux audiences, pour essayer de leur donner des moyens de reconnaître et de contrecarrer pas seulement les paroles de la haine, mais aussi les boutons traumatiques, les boutons psychologiques sur lesquels appuient les opérateurs de la parole de la haine quand ils essaient de les mener à faire des actes de haine.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets, par exemple, de comment vous mettez en œuvre ces méthodes ?
Bon, par exemple, notre programme au Rwanda emploie un feuilleton radiophonique qui est très populaire. Là, il s'agit de deux villages qui vivent dans une crise qui leur est arrivée. Et donc, dans chacun des villages, il y a des gens qui commencent à dire la chose qui est responsable pour notre malheur, c'est au fait l'autre village qui a pris les plus grands champs et donc il faut les attaquer. Et alors, ça passe par plusieurs étapes pour arriver à ce stade de se violenter. Mais il y a des agents de changement positif qui reconnaissent ce qui se passe et qui alerte la population autour d'eux.
C'est des personnages qui sont dans les feuilletons même?
Oui, et ça, tout ça c'est dans le feuilleton. Et c'est aussi important que le feuilleton soit virtuel pour que les gens comprennent que c'est quelque chose d'universel qui peut arriver à chacun de nous. C'est important d'arrêter de croire que les bourreaux sont seulement des monstres qui viennent d'ailleurs. En donnant ce sort de vocabulaire, ce qui arrive dans l'histoire, c'est comme ça que les gens comprennent et à reconnaître et à réagir à ces choses-là.
Quels sont les mécanismes? Comment est-ce qu'on arrive à devenir bourreau?
Ben, ça a à faire avec la peur d'abord. Hein. Après ça, il y a la sécurité et l'identité qui est en danger parce qu'on devient pauvre soudainement ou on est menacé soudainement. Alors là, on est justement dans un état de danger d'être manipulé parce qu'on va chercher des solutions simples. Et les solutions les plus simples sont toujours les traumatismes historiques que nous tenons dans nous, que nos parents nous ont raconté de leur histoire. Et tout ça, s'il y a quelqu'un qui peut nous faire croire que c'est encore une fois quelqu'un d'autre qui est responsable de notre malheur, là on devient de plus en plus prêt à suivre ce sort de continuum qui commence à se passer. Et en fait, il y a des étapes assez simples. Il y a un bouc émissaire qui est décrit. On fait mal à ce bouc émissaire. Après, quand on fait mal à ce bouc émissaire, il faut lui faire plus mal parce que faire mal à quelqu'un dans des actes de violence, de haine, ce sont toujours des choses qui sont hors de sa propre moralité, donc il faut la changer. Et à la fin, ça peut aboutir à un génocide, mais beaucoup de fois, ça aboutit seulement, entre guillemets, à des atrocités de masse.
Autre intervenant, Aidan White, directeur du Réseau international d'éthique dans le journalisme. Lors du débat, il avait pour tâche de parler du rôle des médias face aux discours de haine. Pour lui, il est clair qu'il ne faut pas limiter la liberté d'expression, car les médias ont un rôle précis à jouer et doivent pouvoir le faire pleinement.
À mon avis, il est très très important de maintenir le plus haut possible la liberté d'expression. Certainement, il est nécessaire d'avoir des actions contre le journalisme qui est sans professionnalisme. Il est vraiment important de renforcer les efforts professionnels parmi les journalistes, les patrons des médias, les rédacteurs en chef, pour créer les conditions pour le journalisme déontologique et éthique. L'utilisation de la loi pour régulation des médias ou le contenu des médias, à mon avis, ça aura un effet négatif pour la liberté d'expression et aussi pour la démocratie.
Selon vous, quel est le rôle des médias face au discours de la haine? Que doivent faire les médias?
À mon avis, il est nécessaire d'exposer la réalité derrière de l'expression d'haine.
Alors, quand il y a un film, par exemple, comme celui sur l'innocence des musulmans,
mais,
qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, les médias?
Il est nécessaire pour les médias d'avoir une mieux compréhension de l'impact de reportage sur ce film ou sur, par exemple, Pastor Jones qui a dit qu'ils veulent brûler le Coran. Par exemple, ça c'est une action extrême. Pourquoi les médias ont décidé d'utiliser ces informations comme les grandes nouvelles? C'est pas les grandes nouvelles. Bon, c'est très difficile de dire ça quand il y a dans cette époque des grands problèmes pour les médias économiques, certainement. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire d'avoir un investissement public dans le journalisme éthique. Parce que je ne crois pas que c'est possible pour les formes de médias traditionnelles de donner la protection nécessaire pour la population concernant la qualité d'information. Il est nécessaire de renforcer les valeurs en journalisme. La mise en contexte, explication, de donner les faits derrière l'information, les conséquences des événements. Il est nécessaire d'avoir analyse, contexte, commentaire, avec toutes les opinions disponibles. Ça, c'est nécessaire.
À noter qu'Adama Dieng organisera à la fin du mois de février une conférence à Genève avec des experts pour arrêter des recommandations pratiques pour les États. Affaire à suivre. Et c'est ainsi que se referme cette édition d'Escale consacrée cette semaine au juste équilibre à trouver entre les discours de haine et la liberté d'expression. Escale, le magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies, présenté cette semaine par Christina Silvero avec la collaboration d'Élodie Sabot. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.